bienvenue sur les ondes de Radio Galère pour cette édition hebdomadaire des carnets de Comaguerre, contre la guerre, comprendre et agir. Bonjour à Yamine, qui est là dans le studio, qui nous observe, et bonjour à mes complices habituels, Roselyne, bonjour.
Bonjour.
Habib, bonjour.
Bonjour.
On va commencer par faire dans la... Non, ça ne fera pas partie de la campagne électorale, mais ça donnera à réfléchir sur le vote que certains d'entre vous prendront le risque d'émettre ce dimanche.
Bon.
Oui, alors attends. Montez vers moi, comme ça, c'est meilleur. Voilà. Non, comme ça.
Relève ton micro.
C'est la bonne position? Allons-y. Je vais continuer à garder une bonne position politique aussi, on va essayer. Bon, on fera ce qu'on peut. Alors, je vais commencer par parler d'un sujet qui ne passionne pas les journalistes et qui ne sera pas au menu de la campagne présidentielle, mais qui est très intéressant quand on le décortique. Il s'agit d'une décision de l'Organisation internationale du travail, donc, que je vais situer, concernant la loi sur les licenciements que M. Macron avait fait voter, j'allais presque dire, toutes affaires cessantes dès le début de son mandat. Et pourquoi l'OIT? Alors, l'Organisation internationale du travail, c'est une vieille structure qui est bien antérieure à l'ONU, puisqu'elle a été créée au début des années 1920, et c'était une espèce de réponse internationale à la révolution bolchévique, c'est-à-dire il s'agissait de prendre des mesures pour éviter que ça se propage là, que la révolution bolchévique se propage partout, et installer un forum où se rencontreraient, alors l'OIT c'est très particulier comme organisation internationale, puisque ça regroupe à parties égales des représentants des États politiques, des représentants des patronats économiques et des représentants des syndicats ouvriers, pour faire simple. Donc tripartite. Et elle prend ses décisions en partageant les voix ou en tout le monde étant d'accord sur un sujet. Bon. Cette Organisation internationale du travail a poursuivi donc sa carrière pendant toute l'entre-deux-guerres et elle a été réintégrée après 1945 dans le dispositif de l'ONU. Mais elle a une beaucoup plus longue histoire et elle a continué à fonctionner de la même façon avec ses trois parties. Alors elle s'occupe, alors elle tient des conférences régulières, elle a des représentants de ces trois parties qui sont sur place au siège à Genève. Donc il y a à Genève des représentants de chaque pays, de l'État, des diplomates, donc des représentants des syndicats ouvriers et des représentants du patronat de chaque pays qui sont là. Et puis tout ça est international et donc l'OIT se saisit d'un certain nombre de sujets et même d'une certaine façon elle légifère. Et je m'arrête un peu là-dessus. Légiférer, ça veut dire quoi? Cette organisation donc, travaille et elle établit des conventions, on appelle des conventions internationales sur le travail, une fois que les trois parties se sont mises d'accord. Donc il ne s'agit pas de révolutionner quoi que ce soit. On met autour d'une table donc, les gouvernements, le patronat et les syndicats pour essayer de fixer des règles du jeu pour éviter que les rapports, disons, entre le travail et le capital ne soient pas insupportables et trop violents et trop meurtriers. Il s'agit bien d'un dispositif de régulation de la lutte des classes. Ça s'appelle, c'est très, très clair. Bon. Et donc, il sort de ces débats des conventions internationales disant que sur tel sujet, la précarité, l'indemnisation du chômage, c'est très très vaste, la couverture assurance maladie, enfin, tout ce qui touche au monde du travail, il sort de là des conventions. Et quand ces conventions sortent, elles ont eu l'accord des trois parties dans le dispositif de l'OIT. Après, ce qui arrive, c'est que chaque État qui est représenté dans l'OIT a la capacité de ratifier une convention de l'OIT ou de ne pas le faire. En fait, beaucoup de ces conventions, dans la mesure où elles ont été préparées et qu'elles n'ont ni l'opposition du patronat, ni l'opposition radicale des syndicats, elles sont assez largement internationalisées, c'est-à-dire chaque État les reprend à son compte. Mais pas toujours. Il y a des États, par exemple, qui ne les reprennent jamais. Je pense à un qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, par exemple. Bon, alors qu'ils sont représentés dans l'OIT. Mais ils ne veulent pas se soumettre à une règle qu'ils n'ont pas élaborée eux-mêmes. Bon, on connaît le sujet, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui se passe, c'est que donc l'OIT a été saisie il y a quelque temps déjà, enfin depuis le début du gouvernement Macron, après le vote de la loi sur les licenciements, a été saisie par la CGT et par son force ouvrière, qui ont toutes les deux des représentants à Genève comme mandataires de l'OIT, comme toutes les confédérations syndicales du monde peuvent le faire. Et donc l'OIT a été saisie parce que cette... loi sur les licenciements porte atteinte à une convention qu'on appelle la convention 158, donc une des conventions de l'OIT parmi beaucoup d'autres, qui traite des licenciements. Et qu'est-ce qui ne va pas dans la loi Macron sur les licenciements ? C'est que la loi Macron, si vous vous souvenez, si vous avez suivi le moment où elle a été votée et débattue, il y a eu quelques articles, mais ça remonte à il y a 4 ans maintenant, elle a posé problème parce que la loi fixait des indemnités de licenciement maximales. C'est-à-dire qu'elle arrachait au juge, prud'homme, cour d'appel, éventuellement même cour de cassation, son droit de juger. C'est-à-dire que l'administration et donc l'État prenaient des droits qui étaient ceux de la magistrature. C'est-à-dire qu'on avait un pas, je suis très clair là-dessus, vers un gouvernement autoritaire qui en fait écrase la magistrature, le tribunal ne sert à rien puisque moi, État, et mon Parlement qui est à ma botte, j'ai décidé que les indemnités de licenciement ne seraient pas plus de X milliers d'euros. Quoi qu'il arrive. Quelles que soient les raisons et quels que soient les comportements du patronat dans cette opération de licenciement. Ça a l'air de rien comme ça. Alors, ça a fait un peu jaser à l'époque, mais il faut voir ce que ça signifie, et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est l'État où il y a une séparation des pouvoirs. Vous savez qu'il y a le législatif, l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Là, l'État et donc l'exécutif avaient décidé d'écraser le judiciaire. Toi, tu ne sers à rien. Les patrons sauront que s'ils licencient, ça ne leur coûte pas plus de rien du tout. D'ailleurs, les indemnités maximum étaient très basses. Alors ça, il y a eu une première réaction en France, mais qui n'a pas été beaucoup mise en lumière. C'est-à-dire que la Cour de cassation a dit « moi, je ne prends pas de procès sur ces bases-là ». Parce qu'elle s'est sentie effectivement violée. Le pouvoir exécutif, avec l'aide du Parlement à la botte, s'est assis sur l'indépendance de la justice. Alors que c'est la justice qui, c'est très clair, et c'est clair dans la Convention 158, est souveraine pour dire, en fonction du préjudice subi par le licencié, qui peut être divers selon son âge, ses charges de famille, enfin tout ce qu'on peut imaginer, dans les circonstances et les explications d'un jugement au prud'homme ou au niveau supérieur. Bon, là, la loi disait que ça ne comptait plus. C'est-à-dire il y avait un tarif, c'est-à-dire le licenciement coûte tant au patronat, c'est même pas la peine d'aller au prud'homme, vous n'aurez pas plus de X, peut-être même encore moins. Donc c'était une façon de vider les prud'hommes de leur sens et de leur activité, et puis de dire, de toute façon, c'est l'État qui a décidé, allez vous rhabiller, ne portez pas plainte, vous n'aurez pas plus que ça. Bon. Ben, il se trouve que donc, la requête de la CGT et de FO était fondée. Donc l'OIT, c'est une grosse structure, il faut réunir toutes les parties, aller jusqu'à des niveaux de préparation, puis à des niveaux de décision. Et l'OIT vient de décider qu'effectivement, cette loi n'était pas conforme aux conventions que la France avait ratifiées, dont la Convention 158. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'OIT ? Alors elle fait le maximum de ce qu'elle peut faire. Elle demande à la République française de revoir cette loi comme étant contradictoire avec un texte qu'elle a elle-même signé. C'est-à-dire, elle dit « Monsieur Macron », puisque c'est très clair là-dessus. Alors, ça vient de sortir ces derniers jours, c'est pour ça que ça tombe bien. « Monsieur Macron, vous avez transformé le rapport entre les pouvoirs tel qu'il existe dans la Constitution de la République en faveur de l'exécutif au détriment du judiciaire. Vous avez fait un abus de pouvoir. » Alors, bien entendu, elle ne peut pas aller plus loin que dire ça à l'OIT. Ce n'est pas un tribunal. Mais vous avez signé une convention et vous l'avez violée vous-même. Bon. C'était juste pour indiquer que ce monsieur Macron, qui est capable de faire ça, c'est-à-dire que quand il dit, en montrant du doigt qui que ce soit sur la planète, « Oh, ça, c'est un gouvernement autoritaire », monsieur Macron est à la tête d'un gouvernement autoritaire. Oui. Et il a exercé cette autorité au détriment du contenu de la Constitution et de l'indépendance des pouvoirs. La magistrature est un pouvoir indépendant et ce n'est pas la loi qui doit fixer le niveau des préjudices subis dans un procès. Bon. C'est tout à fait clair. Alors, si ça vous donne des idées pour voter le dimanche, vous verrez bien. Mais je tenais à insister là-dessus parce que c'est trop facile de montrer du doigt d'autres gouvernements qui sont classés dans les autoritaires sur lesquels on crache volontiers et puis de croire qu'on est blanc comme neige et qu'on est des vrais démocrates. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Monsieur Macron a fonctionné avec une assemblée de godillots, comme on disait, du temps du général de Gaulle. Il en a abusé. Une très grande partie des élus nouveaux de sa majorité n'avaient aucune expérience parlementaire. Il en a fait ce qu'il a voulu. Alors, il y en a un certain nombre qui ont quitté le groupe, d'ailleurs, en marche entre-temps, mais pas suffisamment pour faire basculer la majorité. Retenez ceci, C'est un élément de réflexion par rapport à la décision que vous prendrez dimanche matin en vous levant, d'y aller ou de ne pas y aller, c'est autre chose. Mais M. Macron ne peut pas se présenter comme un gouverneur démocrate, c'est faux. Outre son alignement en politique étrangère sur d'autres puissances que la France. Bon. Et sans l'accord, bien entendu, des citoyens français. Quand il dit dans son meeting de campagne, là, c'est notre Europe, mais... avec quel pouvoir il a pour dire « notre Europe ». Bon, elle a signé des traités, on peut en sortir, la preuve est faite maintenant, c'est tout. Mais il n'y a pas un État et un pays supérieur à la France. Pour l'instant, il n'est président que de la République française. Il ne parle pas au nom de quiconque d'autre. Bon. Sauf dans le cadre de l'exercice d'un pouvoir tournant, ce qu'il faisait ces jours-ci. J'ai noté d'ailleurs, et ça c'est heureusement une réaction tardive de l'Union européenne, mais elle a eu lieu, qu'il y a eu donc la semaine dernière une rencontre, qui est une rencontre je crois vidéo, entre l'Union européenne et la Chine, pour parler des accords commerciaux entre l'Union européenne et la Chine. Et j'ai noté que l'Union européenne était représentée par la commissaire, donc Mme von der Leyen, mais aussi par M. Michel, en tant que président du Conseil des ministres, c'est-à-dire que M. Michel assurait, sans qu'on en ait beaucoup parlé, l'intérim de M. Macron, qui était occupé à d'autres activités. Alors, je pense, enfin, on verra, après, il sera en campagne, enfin, la suite, on verra. Mais l'Union européenne n'a pas pu pousser, quand même, la comédie jusqu'à dire « M. Macron, qui est en train de faire des meetings partout en France et de parler de sa campagne présidentielle, il va aussi négocier avec la Chine ». Pour l'instant, il se tait, enfin, il se tait, pas avec les Chinois, mais il se tait pas dans les meetings français. Et donc, on l'a relevé par M. Michel, donc ex-premier ministre, ou premier ministre de Belgique, qui assume, par intérim, la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire sur la campagne électorale, mais c'était important de dire qui est M. Macron. Réfléchissez. Vous l'avez bien vu. Si M. Macron est impopulaire, c'est peut-être pas tout à fait par hasard. Si M. Macron est autoritaire parce qu'il viole des textes que la France a ratifiés, M. Macron aussi, et je reviens une dernière fois sur la question des rapports avec le pouvoir judiciaire, quand M. Macron a obligé la magistrature à être d'une sévérité extrême avec les manifestants des Gilets jaunes, il a aussi fait acte d'autorité au sens de gouvernement autoritaire. Et ça s'est tellement manifesté qu'en plus, on crevait des yeux au passage pour bien montrer que ce n'était pas la bonne politique du pouvoir. Ça, c'était aussi un déplacement vers un excès d'autorité. Ça fait partie du bilan. Bon, je m'arrêterai là. Mais le bilan est lourd. Sans parler de l'économie et tout. Mais chacun se fait...
Et des casseroles, entre guillemets.
Et des casseroles, voilà. Chacun de vous se fait son jugement. Mais je voulais parler de l'OIT, parce qu'on n'en parlera pas beaucoup, mais c'était très, très révélateur de la façon d'aborder les sujets. Et il faut se souvenir, parce que je ne sais pas si c'est ce qui passera, mais dans les semaines qui suivront l'arrivée d'un nouveau président de la République, je pense que la pratique sera exactement la même que celle du deuxième semestre 2017, c'est-à-dire il y aura une avalanche de textes qui assommeront peut-être l'opinion publique et le peuple français qu'il faudra faire passer de toute vitesse. Voilà, ce sera ça, ce sera le jeu. Alors, par exemple, et ça a déjà été annoncé, la question des retraites, je vous mets ça au programme, si vous voulez. Si M. Macron est élu à la fin du mois, la question des retraites arrive au Parlement en septembre, à l'ouverture de la session, et elle passe à marche forcée. Sauf si la population est dans la rue. Voilà, le choix, il est là. Il n'est pas dans les urnes. Bien. Tout est dit. Tout est dit, et on va quand même parler d'autre chose. Mais on reste un petit peu dans la politique française. Je veux parler du Liban. Je veux parler du Liban où il s'est passé deux choses intéressantes ces derniers jours, enfin intéressantes vu dans leur signification politique. D'une part, la Turquie envoie de l'aide humanitaire au Liban. Vous savez que la situation économique au Liban est très désastreuse. Et donc la Turquie, avec un bateau tout simplement, qui débarque à Beyrouth, de la nourriture, etc., veut montrer que dans ce secteur-là du monde, elle pèse de tout son poids. Et donc la meilleure occasion, effectivement, c'est d'apporter des vivres pour une population qui en manque. C'est ce que fait la Turquie. Et le journaliste qui parlait de ça, c'est un journaliste latino-américain, ils ont parlé de la frénésie turque, ce qui est une bonne qualification de l'attitude de M. Erdogan, qui se mêle de tout pour bien montrer qu'il est un des personnages les plus importants du monde. Alors, il le fait parce qu'en même temps, il fait des choses. Il faut savoir que la Turquie a inauguré, ces dernières semaines, un viaduc sur le détroit des Dardanelles, Alors vous situez l'endroit, vous savez qu'il y a deux extrémités au corridor, le Bosphore, donc au côté nord, au milieu de l'agglomération d'Istanbul, et côté sud, l'entrée sud, donc via la mer Égée, c'est le détroit des Dardanelles. Bon, le détroit des Dardanelles est fréquenté par beaucoup de bateaux, et il fallait un pont, et donc la Turquie a construit et a ouvert un pont qui est le plus long du monde à l'heure d'aujourd'hui, pour passer ce détroit. Donc, il a aussi des gens qui travaillent, aussi des sociétés. Voilà, des sociétés qui font des gros travaux, qui savent faire. Bon, on l'a vu dans la construction du nouvel aéroport d'Istanbul, qui est un des plus grands du monde, sans aucun doute. Bon, alors ça, c'est les capacités du patronat, de la classe productrice turque, qui est réelle. Et donc, M. Erdogan s'en sert pour avancer dans sa politique de leader du monde musulman. Alors, je pense qu'il perd son temps, mais il veut montrer que sur tous les sujets, il a son poids et sa façon d'intervenir. Et puis, la deuxième intervention au Liban, c'est une intervention française. Ça fait tout de suite partie de la politique que Macron a suivie après l'explosion du port de Beyrouth. Ben, il faut savoir que la décision a été prise que le nouveau port de Beyrouth, donc en cours de reconstruction, parce qu'il n'a pas été arrêté depuis 2 ans, a été confié à la CMA.
Jacques Saadé.
Voilà, à la CMA. Alors, pourquoi à la CMA? Parce que, d'une part, il y a des liens, j'allais dire, de famille, puisque vous savez que la CMA, qui est aujourd'hui dirigée par M. Rodolphe Saadé, fils du fondateur de la CMA, M. Jacques Saadé, est une famille syrienne. Voilà. Exfiltré au Liban, tu pourras nous le dire, Habib, plus en détail. Enfin, une famille syrienne qui avait quitté la Syrie parce qu'on l'avait un peu poussé « on ». Hafez el-Assad
l'avait
appelé.
C'était des féodaux.
Voilà,
en Syrie.
Voilà, des latifoundières. C'était des latifoundières syriens, voilà. Et ils étaient en délicatesse, disons, pour être gentil, avec le régime de Hafez el-Assad. Et donc, ils étaient partis au Liban.
C'était des propriétaires
terriens.
Ouais,
des grands propriétaires terriens.
Ouais, et ils avaient des vilains, des serfs.
Voilà,
ils s'en servaient exactement comme
la féodalité. C'était le servage.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et donc, ils se replient au Liban. Et puis de là, la fortune vient parce qu'ils deviennent armateurs, des très petites mains, avec 2 petits bateaux. Et puis un beau jour, la manne céleste leur tombe dessus. Je veux dire, la famille Saadé. La manne céleste leur tombe dessus sous la forme d'une équipe gouvernementale qui sévit à Paris, qui est l'équipe gouvernementale du président Chirac. Avec son ministre des Transports, un certain Bernard Pons, qui est en même temps trésorier du RPR. Et donc la France de Chirac, de l'époque du gouvernement Chirac de 86, est une France qui privatise beaucoup. Qui fait un peu c'est le retour de flamme après les nationalisations de Mitterrand en 81. Chirac arrive au pouvoir en 86 et il détricote tout ce que la gauche avait pu faire de nationalisation. Et entre autres, donc, il s'agit donc de dénationaliser la Compagnie Générale Maritime, ex-Compagnie Générale Transatlantique, et la flotte neuve qui avait été donc construite à l'aide de l'État pendant la période de la renationalisation, donc de 80 à 86, est cédée, je dis pour une bouchée de pain parce que c'est ça, une flotte toute neuve est cédée pour une bouchée de pain à la famille Saadé, qui devient de ce fait un petit armateur régional, un armateur international. Qui saura, et je le reconnais, saisir sa chance. C'est-à-dire que quand il leur arrive ce cadeau du ciel, ils auront fait tout ce qu'il faut pour arriver à la position qui est la leur aujourd'hui, c'est-à-dire de 3e ou 4e armateur mondial pour les containers. Donc, ils ont bien travaillé. Hein, je nie pas du tout cette situation. Mais
et il ne faut pas oublier que Jacques Saadé, il a un frère au Liban.
Oui, oui, oui.
Et qui s'occupe. Oui.
Johnny Saadé.
Ouais, Johnny Saadé.
Voilà.
Et qui était en conflit avec lui.
Voilà, pour le partage un peu du gâteau familial. Voilà, donc je voulais expliquer ça. Et donc il n'est pas surprenant que cette compagnie, donc la compagnie maritime, la CMA-CGM, qui a gardé un peu, quand on regarde le titre officiel, de son origine nationale, Compagnie Générale Maritime, payée donc par le contribuable français, cette compagnie a beaucoup d'argent aujourd'hui, d'autant plus qu'elle a fait des résultats extraordinaires, comme ses concurrents d'ailleurs dans l'exercice 2021. Et donc cette compagnie elle a racheté pratiquement le port de Beyrouth et elle va être le gérant du port de Beyrouth.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut le dire, c'est que on a été voir Jacques Saadé pour envoyer un conteneur humanitaire pour la Syrie.
Voilà, tu voulais faire concurrence à Erdogan.
Voilà, voilà. Et bon, donc on a été bien reçus, on croyait vraiment que c'est fait. En réalité, il m'a traîné ça pendant des mois et j'ai jamais eu une réponse positive là-dessus. Et j'aimerais bien le dire parce que Jacques Saadé, et on l'a considéré qu'il est d'origine de la Syrie, et qu'il pouvait vraiment au moins nous aider pour envoyer ces containers, dons humanitaires pour la Syrie. Voilà.
Ce qu'il n'a pas fait.
Voilà, il ne l'a pas fait, oui. Voilà.
Ça n'empêche pas, donc, dans la CMA, d'avoir donc, une très grosse trésorerie, de racheter donc, le port de prendre en gérance le port de Beyrouth. Et le gouvernement libanais trouve ça très bien, parce que le gouvernement libanais n'a pas d'argent et il veut que le port tourne. Et puis, ça permet de rappeler aussi que quelques semaines avant donc, le rachat du port de Beyrouth par la CMA, la même CMA avait acheté au gouvernement grec le port de Thessalonique, qui est le deuxième port de Grèce. Alors tout ça montre, c'est de la rapacité capitaliste, oui, mais en même temps, quand vous avez affaire à des États comme la Grèce, pour des raisons de Fonds monétaire international et de Troïka européenne, ou au Liban, qui ont les poches vides, celui qui vient en disant « je vais faire un peu marcher vos installations », il est le bienvenu. Mais il faut savoir, si la Grèce vend ses ports, elle a vendu le port d'Athènes aux Chinois, à Costco, elle vend le port de Thessalonique à CMA, c'est parce que de toute façon, la Grèce n'a pas d'argent, elle n'a que des dettes. Et ça, c'est la politique de l'Union européenne qui l'a amenée à cette impasse politique, auquel, bien sûr, Tsipras a collaboré à l'occasion, mais c'était bien ça, la réalité. Et là, c'est la même chose. Le Liban, pour d'autres raisons, se trouve avec les poches vides. Et donc, celui qui vient dire « je mets de l'argent, j'en ai, et je fais marcher correctement le port de Beyrouth », eh bien, on lui ouvre la porte et on le laisse faire, d'autant plus qu'il est chez lui, quasiment, puisqu'on est au Liban, et que la Syrie est toute proche, et qu'on a affaire à une famille arabophone, etc. Bon. Voilà ce que je voulais dire sur le Liban. Et puis, une chose qui touche à l'actualité internationale plus globale, c'est les suites de l'opération militaire russe en Ukraine. Ouais. Ça se passe à un endroit qui était un peu inattendu. Enfin, on l'avait un peu vu venir, mais ça s'est confirmé. C'est-à-dire qu'il y a, est en cours, une crise politique au Pakistan. Crise politique au Pakistan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre actuel, M. Imran Khan, avait une majorité parlementaire. Et que soudainement, et il avait bien manifesté son indépendance par rapport à la politique des États-Unis, puisque même il avait été reçu à Moscou par le président russe quelques jours après le début de l'opération militaire. Et donc ça, on ne lui a pas pardonné. Les États-Unis ne lui ont pas pardonné. Et donc il y a eu une manœuvre politicienne en coulisses, et donc une partie de sa majorité parlementaire a voulu voter une motion de défiance. Sur la base, on n'est pas d'accord avec votre position sur le conflit, il fallait être pour l'Ukraine, contre la Russie, etc. Bon. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a réagi tout de suite. D'abord, il a réagi en battant qu'il est, on le sait que c'est un battant. Il a réagi en disant « Non, moi, je ne me soumets pas à ce jugement-là, ce procès de défiance, et je demande au tribunal suprême de prononcer la dissolution du Parlement, puisque j'ai été trahi, je n'ai plus de majorité parlementaire, puisqu'il y a une partie de mes électeurs parlementaires qui me trahissent. Donc je demande à ce qu'on revienne devant les électeurs, que ce soit les électeurs qui tranchent. » Et effectivement, le tribunal suprême a donné son accord là-dessus. Et il va y avoir des élections nouvelles.
Il a nommé, je crois, un Premier ministre, là, actuellement.
Tout à fait. Ouais. Par une sorte d'intérim, en attendant les élections qui doivent se tenir dans un délai de 90 jours. Et on a appris depuis que les États-Unis étaient intervenus par le biais de l'ambassadeur des États-Unis à Islamabad pour dire à certains de ces élus qui venaient de trahir leur premier ministre qu'il fallait qu'ils s'en aillent. Puisque donc il est parti de Washington, un oukase, comme on dit, Monsieur Imran Khan doit partir. Donc on a les États-Unis tels qu'en eux-mêmes. Lui, on ne le veut plus. Le problème, c'est que c'est quand même un peu gros à manier, le Pakistan. Ce n'est pas le Liban.
Non, rien à voir. C'est pas la Syrie.
Voilà. C'est plus gros à manipuler. C'est 200 et quelques millions d'habitants. C'est la bombe atomique. C'est une équipe qui ne se laisse pas faire. C'est une armée quand même assez puissante, etc. Puissante, ouais. Tout ça est un peu plus difficile. Et en plus, alors, péché maximum, le Pakistan s'entend très très bien avec la Chine voisine, ouais, qui a beaucoup investi, qui a créé, donc, avec l'accord du gouvernement pakistanais, ce qu'on appelle le corridor économique sino-pakistanais. Alors, regardez une carte, effectivement, tout au nord-nord-est, ouais, il y a un point de passage entre les deux pays, alors, qui est à une altitude très élevée. Oui, il y a un col, etc. Mais là, il y a une frontière commune, et donc on peut effectivement avoir des relations régulières, économiques, par des oléoducs, par des voitures, par des camions, etc., entre la Chine et le Pakistan. Et ça se développe bien, à telle enseigne que la Chine a développé un port, avec l'accord, bien entendu, du gouvernement pakistanais, sur la côte du golfe arabique, donc, qui s'appelle Gwadar. Et donc là, la Chine a de fait une porte d'entrée sur l'océan Indien en passant par le Capitole. Alors ça fait beaucoup d'éléments qui défrisent Washington. Et donc l'occasion était trop belle de dire maintenant on va se débarrasser d'Imran Khan et du Pakistan. D'autant plus qu'on n'a plus besoin du Pakistan qui, à un moment donné, c'était pas Imran Khan qui était Premier ministre, nous a beaucoup aidé dans l'approvisionnement en matériel, en soldats, en personnel, et on a les revenus dits djihadistes du temps du début de la guerre d'Afghanistan. Ça, c'était. Et donc, il y avait, en particulier dans les services secrets pakistanais, des gens qui étaient très, très de bons services, disons, pour la politique des États-Unis d'invasion de l'Afghanistan, qui était la porte normale d'accès.
Je pense aussi qu'ils ont un problème avec l'Inde, le Pakistanais.
Oui, voilà. Mais en fait, les relations sont en train de s'améliorer.
Oui,
Donc, on va plutôt vers une évolution positive des relations entre les deux pays qui se sont beaucoup affrontés. Bon. Tout ça aussi fait partie des éléments de basculement qui sont liés à l'affaire ukrainienne. Parce que tout le monde se repositionne.
C'est ça que je voulais dire.
Tout le monde se repositionne. Vous savez que les relations entre la Russie et l'Inde qui étaient bonnes sont au mieux, qui sont très anciennes historiquement, mais elles sont au mieux, au point que l'Inde a décidé de commercer en rouble avec la Russie. Donc elle a dit tout de suite oui, elle s'est pas posé de questions. Et donc ça limite beaucoup la portée des sanctions européennes. Si ni la Chine, ni l'Inde, ni toute une série de pays de l'Afrique ou de l'Asie...
C'est des grands pays.
Voilà, c'est les plus grands pays du monde en termes de population, et pas négligeable en termes économiques. Donc si ces pays-là décident de ne plus utiliser le dollar, ça affaiblit beaucoup le rôle de dollar, monnaie soi-disant universelle. On en est là. Et ça, c'est tous les éléments qui se greffent. Alors, les effets ne sont pas instantanés, immédiats, mais les prises de position politique auront nécessairement des suites, puisque ça va réorienter les courants d'échange, ça va donc changer la monnaie de référence pour beaucoup d'échanges, et donc intensifier des relations entre les pays qui accepteront de ne pas travailler en dollars, et ceux qui resteront enfermés dans le dollar. Hélas, j'allais dire, l'Union européenne ne manifeste aucune capacité d'autonomie par rapport à cette politique-là, et plutôt dans le sens « je hurle avec les loups américains, et puis c'est tout ce que je sais faire hein, », au moins dans sa partie, dans son expression majoritaire, qui est beaucoup, beaucoup captée par Mme von der Leyen et la présidente de la Commission, qui en fait exerce un mandat au-delà de ses prérogatives. Elle va aller elle-même, alors qu'elle n'est pas commissaire, elle n'est pas chef d'État, elle n'est rien du tout. Elle va elle-même à Kiev cette semaine. Quel rôle joue-t-elle? C'est-à-dire elle prend un rôle qu'elle n'a pas dans les textes. C'est-à-dire elle viole les textes de l'Union européenne et elle viole tous les 27. Alors il y en a certainement qui sont complaisants, compatissants, mais c'est bien clair qu'elle a fait beaucoup plus d'interventions dans la crise ukrainienne que son rôle en tant que présidente de la Commission ne lui en octroie. Je rappelle par exemple, ça a été cité, qu'au moment où il a été dit que la chaîne d'information Russia Today était interdite en Europe, donc en particulier en France, c'est Mme von der Leyen qui a pris la décision. C'est-à-dire qu'elle a usurpé un pouvoir qu'elle n'a pas. Elle n'a aucun pouvoir pour décider que les 27 États devront interrompre les émissions de telle ou telle chaîne de radio ou télévision étrangère. Bon, elle l'a fait. Personne n'a beaucoup protesté. Hein, mais on en est là. C'est-à-dire qu'elle va donc se rendre à Kiev pour discuter avec le gouvernement, ce qui veut dire que l'armée russe n'a pas bombardé les palais présidentiels et les ministères à Kiev. C'est important, puisque d'ailleurs, si elle y va, c'est qu'elle n'a pas d'inquiétude sur, sur sa santé et que les corridors de circulation des diplômes, ils y sont. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc, on est bien dans un cas d'abus de pouvoir qui ne plaît pas à tout le monde, mais... Enfin, en coulisses, ça ne plaît pas à tout le monde, mais il n'y a pas de protestation. Le seul, alors il ne faut pas le dire, parce que le seul qui ne trouve pas ça et qui le dit un peu, c'est M. Orban, le Premier ministre hongrois. Alors je sais qu'il a très très mauvaise réputation, mais il a tellement mauvaise réputation qu'il vient d'être réélu triomphalement aux élections qui ont eu lieu ce week-end en Hongrie, sur la base de « oui, moi les sanctions, ça ne m'intéresse pas, hein, je continue à avoir de bonnes relations avec la Russie, et puis moi je continue à avoir du gaz, et puis si vous ne voulez pas de gaz, ben, c'est votre problème.
Hein. » Et je le paye.
Je le paye en rouble.
En tous les cas, tout ce que tu viens de dire montre bien que le monde entier ne soutient pas l'Ukraine. Au contraire.
Non,
je veux dire, à part les États-Unis et l'Europe, le reste du monde ne soutient pas ce conflit.
Il y en a beaucoup qui sont abstenus.
L'abstention. Le Pakistan s'était abstenu à l'Assemblée générale de l'ONU. Hein. Mais c'était façon de dire.
Africains aussi.
Et les Africains, très majoritairement.
Il n'y a que la Syrie qui a pris, quand même.
Oui, il y a quelques-uns qui ont voté pour, mais. La position d'abstention, c'est une position de dire « mais moi, je ne fais pas partie de ce conflit-là ». Sous-entendu, c'est un conflit qui a été organisé par les États-Unis, pas depuis 15 jours, il a été organisé depuis 20 ans maintenant. On sait de quoi il s'agit, on ne va pas rentrer là-dedans. Ça, c'était important de le dire. Et puis, puisque je suis dans l'Ukraine, j'y reste un petit peu. J'y reste un petit peu parce que... Alors, la une des médias ces deux derniers jours, c'était la ville de Boucha. Alors, c'est un nom que vous ne connaissiez pas. Moi non plus, en vérité, d'ailleurs, parce que je ne connais pas par cœur la carte de l'Ukraine.
Boucha.
Boucha, oui. Alors, je ne sais pas comment on prononce ça en ukrainien ou en russe. Bon, Boucha. Donc, c'est une ville de la périphérie ouest de Kiev. Et vous savez que, et ça, c'est l'occasion de parler de l'évolution de la situation militaire, en gros, les troupes russes qui étaient montées vers le nord-nord-ouest et qui avaient entouré Kiev, la capitale, se sont repliées, puisque, et c'est l'occasion d'expliquer la situation militaire, la bataille finale, certainement, de cette guerre, de ce conflit, elle aura lieu non pas autour de Kiev, mais elle aura lieu autour du Donbass, qui était le point de départ. Je rappelle que la position de la Russie, c'est tout à fait clair. C'est d'arrêter à ce que la région du Donbass et les deux républiques sécessionnistes soient bombardées à longueur d'année et de journée, et que donc la population meure sous les coups de l'armée
ukrainienne. Depuis 2014.
Depuis 2014.
Et il y a eu plus de 15 000.
Voilà, le chiffre reconnu, pas contesté, etc. C'était bien ça la position normale. Et donc il est bien clair que, d'une part, c'est pour l'opération russe l'objectif principal, c'est-à-dire arrêter le massacre. Et pour les forces les plus actives de la défense ukrainienne, c'est-à-dire non pas, si, certaines unités de l'armée ukrainienne officielle, et puis les bataillons fascisants introduits dans l'armée ukrainienne depuis 2014. Bon. Ouais. Donc la bataille, le cœur de la guerre, il est là.
Mais en Ukraine, tout le monde n'est pas contre la Russie aussi, hein. Il y a bien sûr. Ça, il faut le dire.
Oui, tout à fait.
Il peut y avoir des règlements des comptes, on ne sait pas.
Ah ben ça, bien entendu. Ah. Et puis, d'autant plus que il faut savoir que ces dernières semaines, le gouvernement de M. Zelensky a quand même interdit tous les partis d'opposition. Donc effectivement, tout le monde devient suspect et peut aller en prison. Et encore, la prison, c'est le meilleur des cas possibles. Tout le monde peut se faire casser la figure, tout le monde peut se faire abattre.
Facilement.
Voilà, puisqu'on a affaire à des gens dangereux qui ont l'arme facile et qui tuent facilement. Bon. Donc, je reviens à Boucha. Donc, l'armée russe se déplace, donc libère cette zone-là pour se rabattre donc, sur la zone des combats futurs. Et les prochaines semaines, je pense, du point de vue militaire, sont les semaines prochaines décisives. C'est là que ça se joue, c'est-à-dire que ce qui se joue, c'est l'encerclement par les forces militaires russes et par les forces militaires des deux républiques indépendantes, donc de Lugansk et Donetsk, l'encerclement de ce qui reste d'armée ukrainienne. Alors ce qui reste d'armée ukrainienne, c'est en effectif pas mal de monde, en matériel très peu de choses. C'est-à-dire que les bilans qu'on a maintenant, et qu'on retrouve d'ailleurs, alors c'est assez étonnant parce qu'on a une espèce de censure des médias majoritaires en France, mais si vous allez chercher en Suisse, en Italie, un peu partout, même en Amérique latine, vous trouvez des chiffres très très précis, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'observateurs quand même sur le terrain, qui sont ou des journalistes quelquefois, beaucoup d'agents des services de renseignement, et donc finalement la réalité ressort, c'est-à-dire qu'on sait très bien que l'armée ukrainienne a énormément souffert, qu'elle a perdu les trois quarts de ses tanks, elle a perdu les 4/5 de ses avions, qu'elle a presque plus rien, hein, et qu'elle a même peut-être plus de carburant pour faire circuler ses camions. Bon, voilà. Donc, en fait, l'issue militaire de la bataille, elle laisse pas beaucoup de doutes. Ceci étant, personne dans les gouvernements qui sont les plus anti-russes, dont le nôtre, ne reconnaîtra cette réalité, ne la reconnaîtra publiquement. Donc il faut continuer à faire monter la pression pour faire croire à l'opinion que c'est un carnage, que ça se passe très mal, qu'on a affaire à des sauvages, etc. Mais au fond, je pense qu'ils savent, et ils savent mieux que nous, à la limite, parce que nous, on arrive à trouver des sources ici et là, ou même au Moyen-Orient, on trouve des sources aussi, hein, puisque sur des chaînes comme Al-Mayadin ou d'autres, ou Sana, on trouve beaucoup d'informations. Mais il faut continuer à faire croire à l'opinion française, qui n'a pas que ce sujet à le...
BFM TV.
Voilà. Oui, et tu sais, même les radios et les télés publiques. Il faut faire croire que la défaite militaire russe est proche et tout. Ce n'est pas du tout le cas. La défaite militaire de l'armée ukrainienne est acquise, disons, au 4/5, mais comme dans cette partie de l'armée ukrainienne qui reste, il y a des jusqu'au-boutistes qui ne se rendront jamais, il va falloir que l'affaire se termine. Hein, et ils l'auront voulu. Alors, au passage d'ailleurs, et ça a été très clair de la part du ministre de la Défense russe, les personnages qui seront à l'intérieur des unités de l'armée ukrainienne, mais qui ne seront pas des soldats, je pense donc à divers types de mercenaires de différentes sources, ne seront pas considérés comme des combattants d'une armée régulière au titre des conventions de Genève. Hein ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection de ces personnages-là. Donc... Où ils se rendent, ou bien, voilà, et dans les combats, il se passera ce qui se passera. Que les choses soient tout à fait claires. Alors, les chiffres, ils ont été peut-être un peu grossis. Moi, les chiffres que j'ai pu trouver ici et là, c'était de l'ordre de une dizaine de milliers, pas plus, de ces combattants venus de l'extérieur. Appelons-les les djihadistes à l'ukrainienne. Hein, on peut appeler ça. Oui, c'est une dizaine de milliers, pas plus. Et puis, ce qu'on sait, c'est que le nombre de candidats à ce genre d'activité est en train de diminuer sérieusement. C'est-à-dire qu'au début, il y en a qui sont venus parce qu'ils avaient envie d'en découdre. Et puis, le résultat des premiers combats, tout ça les a fait peut-être un peu réfléchir. Et puis, vous savez qu'il y a une des bases donc, de ces mercenaires qui a été dévastée par un missile russe. Et donc, ça a fait réfléchir peut-être d'autres candidats à ce genre d'activité. Là, il y a ça. Et puis, il y a sur place, effectivement, certainement des officiers du renseignement de différentes puissances occidentales. Et vous savez qu'il est à peu près établi maintenant, mais ça ne sera pas confirmé, c'est un peu trop gênant, qu'il y a à Marioupol, donc cette cité du bord de la mer d'Azov, qui est contrôlée maintenant, encerclée par les forces russes et les forces des républiques sécessionnistes, il y a probablement quelques agents des services secrets français. Alors, qui, eux, courent un certain nombre de risques. C'est le métier qu'ils ont choisi. Et c'est pour ça que M. Macron aurait bien aimé qu'ils puissent en sortir. Alors, ils sortent, oui, peut-être, mais on verra bien. Hein. La France est impliquée. Elle n'est pas la seule. Il y a certainement, on sait qu'il y a des soi-disant, je mets les guillemets, des formateurs américains, des formateurs britanniques, etc. Bon, voilà la situation militaire. Alors, je reviens sur Boutcha, qui était le point de départ. Je reviens sur Boutcha, puisque donc l'armée russe se replie, donc repart dans la zone qui va être la zone des combats décisifs, donc sur le sud-est. Et donc libère la zone où était Boutcha. Il y avait des troupes russes jusqu'au 30 mars dans la zone. Et puis ils s'en vont. Et trois jours après ou quatre jours après, voilà Tipa qu'on nous découvre une affaire épouvantable d'atteinte aux droits de l'homme, etc., de cadavres dans les rues, etc. Et bien entendu, sans la moindre tentative de vérification des faits, on a droit massivement à des vidéos disant « voilà le massacre perpétré par les Russes ». Bon. Alors bien entendu, quand on regarde de près, parce que tout ça se base, c'est une bande vidéo qui, comme par miracle, arrive chez tout le monde, chez CNN, Fox News, machin, chose, etc., dans le monde occidental en entier, dans la journée même. Hein. Et puis, les spécialistes, alors il y a des gens qui savent aujourd'hui décortiquer une image d'une vidéo pour savoir où elle a été prise, à quelle heure, quel jour, etc., et puis trouver les contradictions ou les invraisemblances. Dans ce... Alors là, il y en a, je ne vais pas m'arrêter longtemps là-dessus, mais en fait, c'est un classique, puisqu'on rejoue là, il a été rejoué là, des opérations qui ont déjà eu lieu, et c'est ce qu'a confirmé Lavrov dans une récente conférence de presse, qui ont eu lieu en Syrie avec les casques blancs. Ouais, c'est-à-dire, on fabrique...
Ils sont financés par les Anglais.
Voilà, tout à fait. Alors, on a toujours, effectivement, tu fais bien de le dire, parce qu'il y a toujours un British touch, j'allais dire, là-dedans. C'est-à-dire qu'en matière de manipulation et de montage de coups tordus, je pense que les British ont plus de passé et plus de vices que les Américains.
Que les Américains, oui, c'est vrai.
Et donc, c'est eux qui montent ce genre de coups. Et après, les Américains gobent, mais ils gobent avec la distance. Vous allez voir, je vais expliquer la distance qu'ils peuvent prendre par rapport à ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'après le départ des troupes russes, qui avaient été entérinées, d'ailleurs, le lendemain, le maire de Boutcha avait dit, ben voilà, ils sont partis.
La vie... Il avait le sourire.
Oui, ben, tout, oui c'était, il était... si avait... voilà, c'était tranquille, il n'y avait même plus de risque, il n'y avait plus personne, donc il n'y avait pas de combat, il ne risquait rien. Bon, et on lui fabrique, dans sa bonne ville de Boutcha, on lui fabrique une horreur. Et dans le monde entier connaît maintenant le nom de Boutcha et des horreurs russes. Bon. Alors, ça, c'était le but de la manœuvre. Je pense que ça n'ira pas très loin, parce que très, très vite, il a été montré que ce n'était pas très sérieux, puisque à telle enseigne que dans une des vidéos, on voit dans le rétroviseur de la voiture qui filme la scène un des cadavres qui se relève. Et j'accumule pas les faits. Il y en a toute une série, parce qu'il y a des gens qui, mieux que moi, passent du temps à regarder et à décortiquer, parce qu'on est habitué maintenant à ces manipulations, à ces braquages, ces formations, ben, tout ça. Bon, on sait. Aujourd'hui, alors, pour finir sur une note humoristique, donc tout ça dit, c'est la Russie qui l'a fait. Et on vous dit, voilà, c'est eux qui l'ont fait, etc. Alors, je vous donne simplement, pour vous faire réfléchir, la position du Pentagone sous forme d'une dépêche qui a été reproduite par Reuters, donc un porte-parole du Pentagone, qui dit, alors, je le lis en anglais, mais je vous le traduis après, « Pentagon can't independently confirm atrocities in Ukraine's Bucha, officials say. » Ça veut dire, un officiel du Pentagone dit que les atrocités à Bucha en Ukraine ne peuvent pas être confirmées d'une façon indépendante. Can't independently. C'est-à-dire que le Pentagone ne sait pas. Hein. On lui a dit, il a entendu. Alors, tenez-vous bien, le Pentagone, premier budget militaire du monde, la CIA, etc. Bon, le Pentagone n'est pas en capacité de dire si c'est vrai. Hein. Ça veut dire, alors il se moque effectivement à la fois de nous, enfin des auditeurs, il se moque en particulier de tous les gens qui vont croire ça, et il se moque des Européens. Mais alors, ils se moquent dans de larges largeurs qui, eux, alors, les Macron, les Johnson, les Draghi, etc., tout le monde nous a cassé les oreilles avec Boutcha, alors que le Pentagone, moi, je ne sais pas qui c'est. Hein. Je ne sais pas, ça peut être des Russes, ça peut être... Je ne peux pas confirmer les atrocités de façon à débat. C'est-à-dire, je ne sais rien. Enfin, independently. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas. C'est-à-dire, surtout, je ne veux pas savoir. Et donc, ceux qui hurlent contre avec les loups contre le russe, hein, ceux-là sont des nigauds, puisque moi, je les ai amenés à faire ça. Hein, c'est peut-être une invention, effectivement, des équipes britanniques. Mais moi, je suis au-dessus de ça. Je regarde ça de loin et je ne confirme pas. Hein, en disant, et il dit clairement, alors c'est là que c'est stupéfiant, il dit clairement au gouvernement européen, au chef d'État, chef de gouvernement, mais vous êtes des rigolos. Je vous fais dire n'importe quoi. Et vous le dites. Mais quel est votre niveau de responsabilité? Il est extrêmement bas. Hein, puisqu'on vous vend un truc, un spectacle tout monté, un spectacle à la BHL, vous allez dire, pour faire simple, et de suite, vous reprenez. Alors, ça pourrait être un journaliste ami ou un porte-parole du Quai d'Orsay, ça serait encore gentil. Mais c'est directement le chef d'État qui reprend ça à son compte,
ouais.
Qui sait Mais il ne peut pas ne pas le savoir, parce qu'il n'est pas, il n'est pas fou allié, qui sait très bien que c'est un mensonge, mais qui veut faire plaisir à son patron. C'est tout, parce qu'autrement, il sera licencié. Alors, je ne sais pas si M. Macron sera licencié par M. Biden, hein, mais il veut sans doute éviter le licenciement. Il a très, très peur, d'autant plus que, comme la Convention 158 n'est pas respectée, cette indemnité de licenciement serait toute petite. Bon, je ne sais pas. Mais on a, c'est assez consternant d'envoyer un monsieur qui est chef d'État, qui a la bombe atomique, qui est quand même une des 10 premières puissances économiques mondiales, qui se comporte comme un gamin et qui ne sait pas, enfin, qui n'a aucune, peut-être pas de souvenir de ce qui s'est passé pendant la guerre d'Irak, les couveuses au Koweït, les armes de destruction massive.
Le Vietnam.
Il ne sait rien. Mais est-ce que c'est très, très raisonnable d'avoir un président de la République aussi oublieux et aussi aveugle que ça? Ou aussi dépendant d'une puissance extérieure.
Il est passé avec.
Il sait, bon, il décide de mentir et il décide de mobiliser la population pour des objectifs qui ne sont pas ceux. Où sont les intérêts de la France là-dedans? Alors, on n'en parle pas. Vous allez voir, donc, au mois de mai, on va vous annoncer les débuts, on va vous annoncer la note. C'est-à-dire, vous allez savoir, avec la réduction de l'activité économique. Vous savez, il y avait des grandes ambitions dans l'affichage des croissances de PIB en Europe pour toute l'Union pour 2022. Aucun de ces objectifs ne sera atteint, c'est déjà clair. Ça a été réduit déjà de presque 0,5% pour l'Allemagne. Ça va être réduit pour les Italiens aussi. Ça va être réduit pour tout le monde. Donc il y aura une crise économique et financière qui sera la conséquence des sanctions, des combats, du ralentissement de l'activité économique et tout ça. Mais ça, on vous le dira au mois de mai. Hein ? On ne vous le dit pas tout de suite. Et vous allez voir, ça sera pas triste. Enfin si, ça sera triste pour vous, mais ça sera pas beau à voir. Voilà ce que je voulais dire rapidement, et puis je vous parlerai d'autres choses après. Mais on va faire une petite pause musicale qui va nous faire passer par Cuba. Alors pourquoi il n'y a pas une activité extraordinaire. On va écouter Médicos o Bombas, j'aime bien cette chanson, donc qui est une chanson d'actualité, hein. Soit des médicaments, soit des bombes, c'est un choix de civilisation, c'est un choix politique fondamental, où vous fabriquez des bombes, et à la rigueur vous en servez, hélas, soit vous fabriquez des médicaments. Et donc soit vous êtes pour la population, soit contre, pas votre population, mais la population de quelqu'un d'autre. C'est ça, Médicos o Bombas, que ça veut dire. Pourquoi je vous fais passer cette chanson? C'est parce que Cuba s'est rendu compte que nous vivons, on vient d'en parler, des guerres médiatiques, des guerres dans les têtes. Ça fait partie de la guerre contemporaine. La guerre dans la tête, ça consiste à ce que vous, tout, moi, n'importe qui écoute la radio, la télévision, ait une idée fausse sur la réalité des choses. C'est ça la guerre médiatique.
Et on n'a pas fini.
Hein. Et donc Cuba a lancé une opération qui s'appelle le marathon médiatique à propos du blocus. Ils se sont dit, on ne veut pas mobiliser, faire des manifestations de rue dans le monde entier, etc. C'est lourd à porter, etc. Mais il faut qu'au niveau médiatique, on ne disparaisse pas sous l'actualité générale, qui est l'Ukraine à longueur de temps, Boutcha à longueur de journée, etc. Et donc, ils ont décidé de lancer ce qu'ils ont appelé eux-mêmes un marathon médiatique, c'est-à-dire faire relayer, faire des émissions, demander à tous les gens qui soutiennent Cuba, ils sont nombreux dans le monde entier, de parler de Cuba. Et on s'inscrit dans ce marathon médiatique en écoutant cette chanson Médicos o Bombas. Voilà.
Prenons.
Sanar o provocar heridas, salvar o arrebatar las vidas, ganar. Por ser el que más cuida o matar, ser el campeón homicida. El que está torcida a la escala de valores, villanos con laureles y loores. Cuando se condecore de manera más justa, el que extrae la bala y no a ese que la incrusta. Dar a la humanidad con lo que busca, dar a la humanidad con lo que nunca. Le dio la sed de sangre, el resultado está a la vista. El premio es una tumba, la carrera armamentista retumba. No hay oído que se esconda, inunda. La superficie redonda, fecunda la palabra. Hora de que se imponga, médicos y no bombas.
¿Cuál será el mérito cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir cuál es el mérito?
hoy te toca elegir un vaso médico.
Golpeó la puerta de nuestra casa el karma. Llegó la muerte y ¿dónde están las armas? Sonó la alarma, suena la alarma. Quien siempre apostó a la vida ahora puede dar más. Almas que traen calma. No hubo bloqueo que oscureciera el alba. Palmar, otra misión en su arrojo. Barbas imperiales en remojo. Se cayeron las caretas, vimos la escena completa. ¿Quién es vida? ¿Quién es muerte? ¿Qué quiere el planeta? La encrucijada la misma, hoy te interpela la isla. Que demostró que entre blanco y negro había un prisma. El orden de los factores es el que allana. Un humano investigando o investigación humana. Debemos separar ciencia de violencia. Una brigada por el mundo está haciendo la diferencia.
¿Cuál será el mérito? Cuando esto empiece a crujir y tengas que elegir cuál es el mérito. Si el viento goza el rugir y hoy te toca elegir
un vaso médico.
Un vaso médico.
Pas tout à fait fini, Bombasso Medicos, mais vous savez le message. Alors, Bombasso Medicos, alors, il y a le choix des Cubains, on préfère les médecins et les médicaments aux bombes, et puis il y a le choix du camp d'en face, c'est le choix de M. Biden et de son équipe pour son budget de l'année prochaine. Alors, le budget du Pentagone est augmenté de 4%. Il passe donc de... Alors, il est, pour le Pentagone tout seul, 773 milliards de dollars. On y ajoute... parce que c'est à part 35 milliards de dollars pour la modernisation de l'arsenal nucléaire, tiens, 24, presque 25 milliards pour le programme de missiles de défense, 25 milliards de dollars pour la force dans l'espace, la force militaire dans l'espace. Vous savez qu'il y a un traité qui interdit l'utilisation d'armes dans l'espace. Et bien quand même, on y met quand même 25 milliards. Bon. 2 milliards pour étendre la capacité militaire des États-Unis dans la zone de l'Indo-Pacifique. Là, on ne paye pas beaucoup parce que c'est le Japon qui payera. C'est les dindons de la farce de ce côté-là, du monde.
Et l'Australie.
Et l'Australie aussi. Mais à moindre mesure, ses capacités contributives. Ouais. Voilà. Donc, en fait, dans le temps où le Pentagone n'est pas capable de savoir ce qui s'est passé à Boucha ou qui ne veut pas le dire, de toute façon, la réponse du Pentagone, elle est claire. Vous, Européens, criez à Boucha, aux horreurs, etc. Nous, on augmente nos budgets militaires. Et puis en plus, on est bien contents, on se frotte les mains, parce que l'Allemagne qui est tombée totalement dans le piège fait la même chose. La France était déjà pas mal avancée. L'Italie aussi est tombée dans le même piège. Et tout le monde va suivre, les Belges, les Hollandais, etc., gaiement. Bon. Donc le budget du camp occidental, pour faire simple, augmente le budget militaire. Mais bien entendu, c'est la Russie qui est le danger public numéro un. Le budget de la Russie, alors je le compare en chiffres, il est de l'ordre de 50 milliards. Alors, comparé aux 850 milliards du budget militaire des États-Unis, avec tous les chapitres, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Mais c'est eux qui ont tous les torts. Hein. C'est eux qui sont les plus hauts. Bon. Voilà. J'insiste pas beaucoup là-dessus. Mais je vais revenir, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Un tout petit peu d'histoire, parce qu'il faut savoir qu'on parlait donc de basculement, d'un changement général de la situation géopolitique mondiale. C'est bien ce qui est en train de se voir, mais ça ne se voit pas. On ne voit pas tous les jours des éléments d'évolution. Il faut regarder ça sur plusieurs mois. Il faut même regarder sur plusieurs années. Et j'ai retrouvé une phrase prononcée par un certain Boris Eltsine, qui, vous le savez, fut le premier président de la Russie, devenu Russie, redevenu Russie, qu'il prononce, on est au mois de juin 1992, donc il est président depuis un an à peu près, il le prononce devant le Congrès des États-Unis. Alors le Congrès, vous savez, c'est un rassemblement du Sénat et de la Chambre des représentants, c'est l'instance suprême, c'est là où le président vient faire son discours sur l'état de l'Union et tout. Donc tout le monde est là, tous les gradins sont pleins. Et j'ai regardé la vidéo de l'arrivée de M. Boris Eltsine dans la salle du Congrès des États-Unis. Alors, ce n'est pas du tout un chef d'État étranger qui arrive avec ses deux porte-serviettes. Et...
avec sa bouteille de vitre.
Non, alors apparemment, il avait l'air frais sur la vidéo. Mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'il passe son temps à serrer des mains, à taper sur les épaules. Enfin, on a l'impression qu'il connaît tout le monde. Alors, mais comment ça se fait qu'il les connaît si bien ? Alors, ben, ça veut dire que depuis un certain temps, ces messieurs-là faisaient le voyage de Moscou et tout le monde le trouvait très, très gentil, ce bon monsieur Eltsine, etc., etc. On a l'impression d'un accueil très, très chaleureux. Alors, ça va se terminer par la fameuse ovation debout de tout le monde, mais ils sont très, très contents, même avant qu'il ait ouvert la bouche. C'est quasiment un ami. C'est quasiment un ami. Et voyez ce qu'il va leur dire, ce qui va les mettre dans une joie folle. Écoutez, c'est du Eltsine pur. Et je pense que ce jour-là, il était âgé. J'ai le grand honneur de m'adresser ici au congrès d'un grand et libre pays. L'idole communiste qui répandait la discorde sociale, l'animosité et une cruauté sans pareille à travers le monde, qui inspirait la peur à la communauté humaine, est tombé. Il est tombé pour toujours. Je suis ici pour vous assurer que sur notre sol, nous ne permettrons pas qu'il se relève.
Il a bu.
Voilà. Et donc, délire dans les rangs du Congrès. Hein, il a enterré, ça y est, bon, il a enterré le cadavre. Hein, ouf, on est tranquille. Bon, ça donne quoi, ça ? Parce que là, ce n'est pas seulement des moments émotionnels. Ces gens qui sont là, c'est eux qui décident de la politique des États-Unis, avec tous les intérêts du complexe militaro-industriel qu'il y a derrière et tout. Et ils se disent, il est venu capituler le sourire à la bouche devant nous. Nous n'avons plus aucun adversaire politique dans le monde. Nous sommes les maîtres du monde. Ce qu'ils vont faire tout de suite, c'est-à-dire ils vont se lancer dans toute une série d'activités en disant « nous sommes les maîtres », ça c'est les deux mandats de Bill Clinton. C'est le mandat qui va conduire à l'invasion de la Yougoslavie, c'est le mandat qui va conduire à la création de la Cour pénale internationale. Pourquoi créer la Cour pénale internationale ? Parce que de toute façon, en tant que maître du monde, il suffit de menacer avec les armes pour que tout le monde rentre dans la sous-terre. Hein ? Et donc on menace avec les armes... Et puis on dit au gouvernement, ou on trouve un prétexte pour dire « ce gouvernement ne nous plaît pas, on va le convoquer devant la Cour pénale internationale ». On fait l'économie de l'usage des armes, qui sont toujours là comme menace, et ça se résout devant un tribunal, ça prend des 5-10 ans et tout. De toute façon, on a judiciarisé la politique internationale. C'est nous qui tenons les règles du jeu, on menace... Celui d'en face a peur, il est tout petit, hein, et il sait qu'il va finir sa vie sous les verrous. Donc il n'est pas dangereux. Et puis on mettra à la place quelqu'un qui nous convient beaucoup mieux que lui. Et donc les premiers procès vont... Enfin, tout ce qui va se passer à la CPI a ce sens-là, c'est-à-dire judiciariser les rapports de force internationaux avec simplement la menace militaire des États-Unis qui est terrorisante puisqu'il n'y a personne en face, personne va se présenter. Ça, c'est la période qui nous amène à 2000. Dans l'entourage de M. Eltsine, il arrive un jeune qui est un fonctionnaire, donc qui s'appelle Vladimir Poutine, hein, qui observe en particulier ce qui se passe en Tchétchénie, en disant « là, on est en train de nous chercher des poux dans la tête avec l'histoire tchétchène », qui se rend compte que c'est grave, vous savez que ça a failli mal tourner, je rappelle l'épisode de l'Opéra de Moscou, etc. Bon, peu importe. Et M. Poutine... arrive au pouvoir, parce que c'est Eltsine qui dit « bon, finalement, je vais lui laisser la place ». Et à ce moment-là, nouveau changement. Il ne s'agit plus de dire « on est les maîtres du monde ». Là, il y a un monsieur qui, quand même, n'a pas l'air tout à fait entre nos mains, quoique, dans ses premières années, M. Poutine fait tout ce qu'il faut pour rassurer les Américains. À preuve, le coup de téléphone très particulier qu'il donne à George Bush un certain soir du 11 septembre 2001, pour lui dire « je suis avec vous ». Nous sommes encore dans le même camp, hein, la capitulation de Eltsine. Moi, je l'assume, j'y étais, hein, je l'assume. Hein. Et puis, on devrait s'entendre quand même, c'est pas la peine qu'on se fâche. Et puis, M. Poutine va, au bout d'un certain temps, se rendre compte qu'en fait, cette capitulation, elle est définitive dans l'esprit des États-Unis. Il n'y aura plus jamais personne en face, que ça s'appelle la Chine, la Russie ou tout ce qu'on veut. C'est ce qui va donner donc lieu à la guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire que pour affaiblir le camp d'en face qui n'est pas encore constitué, la guerre contre le terrorisme va permettre d'intervenir à peu près partout. C'est ce qu'on va avoir donc en Syrie, Libye, etc. Tout ça est connu.
Printemps arabe.
Voilà, les printemps arabes. Et puis on arrive donc en 2018, où là, on s'est aperçu qu'effectivement, la Chine, qui ne comptait pas, en 90, la Chine ne compte pas. Elle est dans les difficultés, elle sort de Tiananmen, etc. Il n'y a pas de relation particulière entre la Chine et la Russie. Il faudra attendre la création de l'Organisation de coopération de Shanghai au début de l'année 2000 pour qu'il y ait un début d'évolution. Et donc, à partir de ce moment-là, les États-Unis disent « on fait ce qu'on veut sous prétexte de terrorisme et on finance des terroristes, on les fait payer par nos amis saoudiens, etc. » C'est ça la période, les années 2000-2010, c'est ça. Poutine comprend dès 2007, puisqu'il le dit à la conférence de Munich quand il parle là-dessus. Et puis, il va arriver, donc 2018, et je finis là-dessus, où les États-Unis sortent le document stratégique donc qui se substitue à la guerre contre le terrorisme, ce qui est fini, c'est terminé. Il y a encore des gens qui croient encore au terrorisme et au djihadisme, mais ça, c'est des fous furieux qui sont presque à leur compte, j'allais dire. La stratégie des États-Unis est définie dans un document du ministère de la Défense qui est « Nous avons aujourd'hui deux ennemis, c'est la Russie et la Chine ». C'est tout. Bon, on est dans cette période-là, et c'est à cette lecture-là qu'il faut s'habituer pour comprendre ce qui se passe en Ukraine, les Ukrainiens étant un peu au milieu de cette bataille qui les dépasse de très très loin, et on y reviendra sûrement. Voilà les dernières informations que je voulais donner avant qu'on y revienne mardi prochain, puisque ce grand basculement du monde va prendre un certain temps, mais c'est très intéressant à suivre. Merci de votre attention. Merci Yamine.